à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe. Cette semaine, avant de se replonger dans le tournoi des 6 nations avec le 15 de France, on fait un détour par le rugby à 7 pour retrouver Antoine Dupont. Les Bleus ont remporté dans la nuit de dimanche à lundi l'étape de Los Angeles. Un sacré événement puisqu'ils n'avaient plus gagné de tournoi depuis 2005. Alors peut-on parler d'effet Dupont? Comment le demi de mêlée toulousain s'est-il adapté à ce nouveau sport? L'équipe de France à 7 va-t-elle entrer dans une nouvelle dimension? On va répondre à toutes ces questions avec Adrien Coré. Bonjour Adrien.
Bonjour Léa.
Et avec Jérôme Bourré, tout juste rentré des États-Unis. Bonjour Jérôme.
Salut Léa, salut Adrien.
Crunch, c'est parti. Flexion, lié, jeu. Le week-end dernier, on a retenu des horaires bien précis comme 18h52, 23h08 ou 4h16, preuve que le rugby à 7 est un sport de gens ponctuels. L'équipe de France jouait le tournoi de Los Angeles une semaine après celui de Vancouver où ils avaient terminé 3e. Cette fois, les Bleus se sont imposés 21-0 contre la Grande-Bretagne en finale. C'est une victoire surprise pour les Bleus, Jérôme ?
Oui, comme vous l'avez rappelé dans votre introduction, c'était pas arrivé depuis 2005. Donc dans ce sens, on peut dire que c'est une surprise pour le rugby à 7 français. Après, c'est pas complètement illogique non plus, puisque depuis quelques années, on assiste à une montée en puissance de cette équipe de France. Quatrième mondial l'an dernier, ils avaient fait 6 demi-finales, une seule finale qu'ils avaient perdue. Donc voilà, on sentait que ça allait venir. Après, le début de saison n'était pas flamboyant. Et puis voilà, il y a eu cette arrivée d'Antoine Dupont. On y reviendra plus tard. Est-ce que c'est la raison qui a fait que les Bleus ont gagné ce week-end? Mais en tout cas, on s'y attendait pas forcément.
Surtout le score, 21-0 contre la Grande-Bretagne, c'est étonnant. Ils les ont rencontrés en poule. C'était plus compliqué?
Ouais, c'était un petit peu plus difficile. Après, la Grande-Bretagne, c'est pas forcément une très grande puissance du rugby à 7. Donc la finale en soi, c'est pas forcément une très grande surprise. Sans rien enlever d'ailleurs à la performance de l'équipe de France à 7 sur ce tournoi. Sur le dernier carré, ça s'est un peu ouvert au niveau du tableau. Les grandes nations comme les Fidjiens, les Argentins avaient été éliminés dans l'autre partie de tableau. Donc ils ont eu un parcours peut-être un peu plus simple que ce qu'ils ont pu avoir les précédentes fois où ils ont rallié la finale sans parvenir à la gagner. Mais ça n'enlève rien à leur performance parce qu'ils ont montré qu'ils étaient clairs dans leur jeu et un peu les patrons sur ce tournoi.
Comment vous les avez trouvés par rapport à Vancouver une semaine plus tôt? Est-ce qu'il y a une montée en puissance? Ils avaient terminé 3e.
Ouais, dans le jeu c'était mieux. Alors dans les résultats, pas forcément, puisqu'ils ont perdu un match de poule à Los Angeles qui ne leur était pas arrivé à Vancouver. Mais bon, c'était contre les Fidji. Une des meilleures nations au monde à 7. C'était le seul petit accroc de ce tournoi de Los Angeles. Sinon, oui, dans le jeu, c'était plutôt très, très individuel à Vancouver, beaucoup plus construit à Los Angeles. C'était vraiment ce que Jérôme Daré, le sélectionneur, attendait. Ils ont changé leur jeu à l'intersaison. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps. Ça manquait un petit peu de liant à Vancouver. On a vu du mieux à Los Angeles, mais il y a encore des petites choses à régler d'après l'avis du sélectionneur. Donc on peut s'attendre à une progression constante encore sur les tournois qui viennent.
Et donc, vous l'avez dit, ça faisait très longtemps que les Bleus n'avaient pas gagné un tournoi. Comment était l'ambiance là-bas? Jérôme, toi, tu as suivi ces deux tournois. Comment ils ont fêté ça? Comment c'était?
Alors malheureusement, je ne suis pas resté jusqu'à la fête, mais de près ce que j'ai pu lire, ça a été bien fêté comme il se doit. La première victime, entre guillemets, de tout ça, ça a été William Iragua qui a perdu ses dreadlocks. Les deux premiers joueurs qui se sont présentés en zone mixte, c'était Paulin Riva et Stéphane Pérez. Et ils avaient tous les deux un petit bout de dreadlock dans les mains, donc ça a bien fait marrer tout le monde et je pense que la suite a été aussi endiablée que ça.
Et pour le staff, c'était un soulagement après tant d'années sans victoire? Comment c'était pour eux?
Ouais, il y avait quelque part un soulagement et puis surtout, c'était une preuve que leur travail commençait à payer parce que ce n'est pas une fin en soi de gagner un tournoi, c'est vraiment quelque chose qu'ils voulaient faire. Mais la grosse carotte, elle est au mois de juillet, ils veulent absolument cette médaille d'or aux JO. Ils s'étaient vraiment mis deux objectifs cette année, c'est gagner la grande finale de Madrid et gagner les JO. Avant ça, ils auront gagné ce tournoi, personne ne pourra leur enlever, ça marque l'histoire, mais ils ne veulent surtout pas s'arrêter là.
Pourquoi ça a été si compliqué pour le rugby à 7 masculin dans les précédentes années?
Il y a en France, évidemment, le faisceau lumineux, il est plus sur le rugby à 15, ce qui est assez logique en termes de nombre de licenciés, en termes de structure. Et depuis quelques saisons déjà, on voit que la fédération, en tout cas, a un peu cet objectif de faire monter en puissance le rugby à 7. Alors, il y a eu une première étape qui a été franchie quand le rugby à 7 est revenu aux Jeux Olympiques, enfin, il est arrivé d'ailleurs aux Jeux Olympiques en 2016. Pour les Jeux de Rio. Et avec l'obtention des Jeux par Paris en 2024, il y a eu encore plus cette dimension de vouloir évidemment développer l'équipe pour pouvoir aller accrocher une médaille. Au niveau de l'équipe masculine, on a senti un développement assez constant dans le sens où Jérôme Daré s'appuie davantage sur un jeu qu'il veut mettre en place que sur des hommes. L'apport d'Antoine Dupont, évidemment, qu'on va en parler bientôt, change un peu cette perspective-là. Et du côté des filles, alors je sais que c'est pas forcément le thème de ce podcast, mais si on va l'évoquer rapidement, mais les filles, elles, ont beaucoup plus performé que les garçons ces dernières années. Elles étaient qualifiées aux Jeux à Tokyo, elles ont amené une médaille d'argent.
Alors que les garçons n'étaient même pas aux Jeux.
Absolument, ouais, ils s'étaient fait éliminer au TQO. Et donc du coup, ouais, cette équipe féminine, avant l'arrivée d'Antoine Dupont, c'est un peu elle qui avait la lumière médiatique, parce que c'était elle tout simplement qui performait plus.
Alors on va parler d'Antoine Dupont. Quelle place il a prise à Vancouver et à Los Angeles, Jérôme?
Alors Vancouver, tout est allé très vite sur ces deux tournois.
C'était ses deux premiers tournois avec l'équipe de France à 7.
C'est ça. À Vancouver, il a passé sa première journée majoritairement sur le banc. En tant qu'observateur, il a joué 3 minutes le premier match, 3 minutes le deuxième match. Après, les deux journées suivantes, il est devenu un pack player. Il rentrait en cours de match, il apportait exactement ce que Jérôme Daré attendait de lui, de l'efficacité, de la puissance en fin de match quand les organismes commencent à être fatigués. Donc il a commencé à faire quelques différences. Et puis encore un autre rôle à Los Angeles, où là c'était un titulaire, un cadre de l'équipe. Vraiment, il a très 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 vite trouvé ses marques dans ce groupe.
Donc Antoine Dupont était l'attraction de ces deux étapes. On le rappelle, le demi de mêlée et capitaine du 15 de France a décidé de tenter l'aventure à 7 cette année en vue des JO et donc de mettre l'équipe de France à 15 entre parenthèses. Comment on pourrait appeler ça? C'est une pause, c'est une pige à 7?
Ouais, plutôt une pige, je pense, dans la mesure où on ne peut pas trop se reposer au rugby à 7 vu les conditions que ça demande, notamment physiquement. D'ailleurs, Jérôme, je crois que tu ne me contrediras pas, mais Antoine Dupont a fini les deux tournois rincés.
Oui, il commençait ses journées avec des courbatures, il les finissait avec des courbatures de son propre aveu, donc il a vraiment tapé dedans.
Ouais. Ouais, voilà, on sait qu'Antoine Dupont, c'est un phénomène physique, mais le rugby à 7 demande une telle exigence que même pour des monstres comme lui, on ressent la douleur après les matchs.
Moi, je dirais, ouais, avant tout, c'est un défi. C'est un défi parce qu'il se met en danger, il sort de sa zone de confort. Il y a des similitudes évidemment avec le 15, mais c'est pas non plus complètement le même sport. Donc en termes d'image aussi, il se met un petit peu en danger. S'il vient là, c'est pour faire une médaille d'or. Si jamais ça marche pas, il prend quand même un petit risque. Mais en sortant de cette zone de confort, il s'offre une respiration. On voit que le 15, l'ambiance est pas géniale, que tout le monde est complètement cramé après la Coupe du Monde. Et il y a des joueurs qui ont eu besoin de repos, qui ont coupé. Lui, c'est peut-être sa manière à lui de couper, d'aller voir autre chose, de se mettre en danger, de changer ses habitudes. Là, il est dans un monde complètement différent. Il voyage, une ambiance complètement différente, une préparation différente. Peut-être que c'est ça, sa façon à lui de couper avec cette Coupe du Monde qui a été très difficile pour tous les joueurs du 15.
Ouais, puis ces Jeux de Paris 2024, c'est aussi l'opportunité d'une vie pour des sportifs comme lui, de son niveau. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de petites critiques sur ce passage d'Antoine Dupont du 7 au 15. Certains considèrent qu'il devrait privilégier sa carrière à 15. Ces critiques, elles peuvent être entendues. Je pense qu'elles sont peut-être un peu injustifiées dans la mesure où c'est vraiment une occasion qui ne se représentera pas. Et s'il y a bien un joueur capable de le faire, de s'adapter aussi rapidement, c'est lui.
Pour Antoine Dupont, comment est née cette envie de passer de 15 à 7? Comment il l'a négocié?
En fait, il a rapidement évoqué ce désir de vouloir tenter cette aventure à 7. Avant même la dernière Coupe du Monde à 15 qu'il a disputée avec le 15 de France, il avait déjà fait part à la fois au staff du 15 de France, mais également au staff de son club, le Stade Toulousain, qu'il voulait tenter cette aventure. Alors ça n'a pas forcément fait plaisir à tout le monde. On sait que Fabien Galthié a essayé au début de le convaincre de rester au 15 pour disputer le premier tournoi de son second mandat, donc le tournoi actuel en 2024. Mais finalement, au terme des négociations, le club, la fédération et Antoine Dupont se sont mis d'accord pour avoir des plages pour qu'il puisse s'entraîner avec le 7, comme il l'a fait pour la première fois tout début janvier, pour participer à ces tournois. Donc évidemment, il ne va pas faire tous les tournois. Par exemple, les deux prochains à Hong Kong et Singapour, il ne sera pas là. Mais c'est une négociation avec son club et tout le monde y trouve son compte au final.
Ça avait été officialisé, oui, fin novembre, mais il nous a confié Antoine Dupont à l'issue de la finale à Los Angeles que sa préparation l'avait commencé tout de suite après la Coupe du Monde, donc ça rejoint ce que dit Adrien sur le fait qu'il y pensait depuis très longtemps et que même si ça a été acté pour des problèmes contractuels beaucoup plus tard, lui c'était clair dans sa tête et dans sa préparation depuis déjà très longtemps.
Et donc, dans sa prépa, qu'est-ce qu'il a fait pour être au top pour ces deux tournois de rugby à 7?
Il en a rajouté après ses entraînements avec le Stade Toulousain. Il était en lien hebdomadaire avec la cellule de cette équipe de France à 7, avec Jérôme Daré, le sélectionneur et le préparateur physique, avec l'encadrement évidemment du Stade Toulousain. Tout ça se fait en bonne concertation. Et il se rajoutait des exercices physiques pour préparer son organisme à ces efforts très particuliers du set, avec une multiplication de sprints à très haute intensité. Et puis, il y avait aussi des gestes techniques à préparer, puisque sur ces deux tournois, on l'a vu faire des renvois, ce qu'il ne fait pas souvent à 15. Et puis, on l'a même vu lancer en touche. Donc ça, j'imagine, fallu s'entraîner un petit peu.
Après, il est tellement facile, entre guillemets, qu'on sait que techniquement, c'est un phénomène, physiquement également. Il y avait assez peu de doutes, finalement, sur sa capacité à pouvoir assumer la charge physique du passage au set. Là où il y avait peut-être plus une interrogation, c'était sur sa capacité à s'adapter aux règles, aux jeux, parce que le rugby à 7, c'est un sport évidemment semblable, mais aussi très différent sur ce qu'il demande aux joueurs. C'est deux périodes de 7 minutes, c'est beaucoup, beaucoup de jeux, très peu de temps mort. Une discipline aussi importante, parce que les arbitres sifflent rapidement. En rugby à 7, il y a beaucoup de pénalités. En fait, il faut savoir aussi accepter de faire des fautes, même si elles se payent toutes cash, parce qu'en fait, sur 14 minutes, on ne peut pas réaliser un match sans la moindre erreur. Donc voilà, tout ça, ça demande aussi un nouveau logiciel. Et comme c'est un joueur plutôt intelligent, on sait qu'il a réussi assez facilement à s'adapter.
Et qu'est-ce qu'il a dû adapter dans son jeu par rapport à ce qu'on connaît de lui avec Toulouse et l'équipe de France à 15?
Ouais, mais justement, déjà, il y a eu quelque chose peut-être qui lui a un peu facilité la tâche quand il est arrivé, c'est qu'il a joué à peu près au même poste où il évolue à 15, c'est-à-dire en demi de mêlée, en quelque sorte. C'est pas vraiment ça à 7, il y a moins de postes évidemment, mais en gros, il y a celui qui ramasse le ballon derrière les rucks. Bah, il a fait à peu près le même travail, du moins au début. Je pense que ça lui a un peu facilité la tâche. Après, il ne s'est pas tant adapté que ça. En tout cas, il n'a pas transformé son jeu parce qu'on connaît ses qualités de joueur pour gagner les duels face à ses adversaires. Sa capacité aussi à répéter les efforts longtemps, sur le long terme, et en même temps à un rythme soutenu. Tout ça, il l'a montré à plusieurs reprises dans tous les secteurs. Offensivement, on l'a vu beaucoup défier. On l'a vu battre ses adversaires sur un appui, sur un raffut, sur une percussion. Et en défense, c'est là aussi où moi, il m'a peut-être le plus impressionné, c'est pas toi Jérôme, mais c'est sur sa capacité à rattraper les coups. Tu as posé une question à Jérôme Daré sur pourquoi il défendait en second rideau. Alors c'est un peu technique, je suis désolé, mais pourquoi il défendait en second rideau et qu'en fait, il y avait un double avantage à cela. C'était que premièrement, ça lui permettait de se reposer un petit peu, de ne pas être sur des montées rapides. Et donc, du coup, ça lui permettait une adaptation plus simple. Et en même temps, avec ses qualités d'explosivité, de jaillir plus rapidement dès que la défense française était franchie et de pouvoir attraper les coups. Et il y a un exemple très précis contre les All Blacks, contre les Néo-Zélandais, pardon, à Vancouver, en demi-finale, où il rattrape un coup comme ça, puis il fait un contre-ruck. Enfin, on voit dans ces conditions-là qu'il répète les efforts et que ce n'est pas un problème pour lui.
Et qu'est-ce qu'il apporte de son expérience à 15 à cette équipe de France à 7? Est-ce que l'équipe de France à 7 change aussi un peu son jeu?
Au niveau du jeu, je pense qu'il a ce qui a beaucoup surpris, c'est jusqu'à ses équipiers, c'était que justement, il n'a pas complètement transformé son jeu, il a gardé un petit peu de choses spécifiques au 15. Donc, il a tenté des gestes incroyables auxquels ses équipiers ont dû s'habituer. Mais le maître mot qui est revenu dans la bouche de ses partenaires, c'était la sérénité. Dès qu'il est sur le terrain, dès qu'il est autour de nous, il nous apporte cette sérénité. Et tout à l'heure, tu parlais de la défense, Adrien. Alors, il a été très costaud et je pense qu'il a poussé tout le monde à faire autant d'efforts et à être aussi précis. Et sur les trois premiers tournois, pardon, le gros point faible de l'équipe de France, c'était la discipline. Et il se trouve que ce problème a été réglé sur ces deux tournois. Et je pense qu'Antoine Dupont n'est pas étranger à ça par son expérience, par son vécu, par cette sérénité qu'il a apportée au groupe.
Puis, c'est un joueur qui dégage quelque chose automatiquement pour les adversaires également. Enfin, c'est un aimant à défenseur. Forcément, quand Antoine Dupont est face à votre défense, vous avez un focus sur lui, même si c'est inconscient, en fait. Donc, ça libère forcément des espaces pour ses partenaires. Et au rugby à 7, comme il y a déjà des larges espaces, je pense que ses coéquipiers profitent aussi de ce talent qu'il a de démenter les regards.
Et dans les gestes qu'on n'a pas l'habitude de voir en rugby à 7, il y a la passe transversale au pied qui a pas mal marqué.
Oui, on le voyait assez souvent faire ça à 15. Il l'avait fait notamment avec le 15 de France pour la Coupe du Monde contre la Namibie. C'était un peu un régal là-dessus. Il avait envoyé des ogives à ses ailiers. Et là, il l'a retenté sur un coup. Parce qu'au rugby à 7, oui, en fait, il y a beaucoup moins de jeux au pied qu'au 15, évidemment. Parce que c'est pas vraiment un jeu d'occupation. On est plus sur un jeu de main. Et le jeu au pied, par essence, c'est un peu une prise de risque, c'est un peu la possibilité offerte à l'adversaire de récupérer le ballon. Donc c'est quelque chose qu'on voit moins. Mais là, il l'a senti, il l'a fait, et comme ça, Antoine Dupont, ça a marché.
Oui,
et
puis pas coup de bol, parce que c'était évidemment prémédité, mais à la réception, c'était Nelson Épée qui joue au Stade Toulousain, donc qui doit bien connaître ce genre de coup de génie d'Antoine Dupont.
Et puis Antoine Dupont a aussi dû s'adapter à l'organisation particulière du rugby à 7, donc avec des matchs courts, espacés sur plusieurs jours, beaucoup de voyages aussi. Est-ce qu'il a été un peu perturbé par ça, ou en tout cas comment il l'a vécu ?
Perturbé, ça ne s'est pas vu en tout cas.
Oui, visiblement non.
Dans sa préparation, il ne pouvait pas anticiper tout ça, donc il a vraiment pris entre guillemets tout ça dans la figure quand il est arrivé à Vancouver. Il a très bien dit qu'il s'était laissé porter par l'encadrement qui a l'habitude de tout ça. Donc tout est très timé. Dès qu'un match finit, on plonge dans la baignoire de glace. Ensuite, il y a les soins, les massages et tout ça. Il y a un temps dévolu pour tout ça, donc il a vraiment suivi le mouvement. Et après, ils ont entre 1h30 et 2h de temps libre. Et là, pareil, il s'est laissé porter par l'ambiance du groupe où il y a vraiment... une super ambiance de camaraderie avec de la musique à fond. Il a juste confié qu'il connaissait pas tous les sons qui sortaient des téléphones de ses équipiers, mais il s'est laissé emporter par tout ça, il s'est laissé porter, et ça s'est super bien passé parce que il a été vu par tous ses équipiers comme un atout supplémentaire et pas du tout comme une pièce rapportée. Donc la mayonnaise a pris tout de suite. Ouais.
Visiblement, la mayonnaise a pris tout de suite. L'adaptation en temps record, ça c'était prévisible qu'il s'adapte si vite.
Ouais, physiquement, on avait assez peu de doutes. Comme je disais tout à l'heure, c'était plus sur l'adaptation au jeu en lui-même. Mais comme c'est un joueur intelligent, on sait qu'il réfléchit beaucoup au jeu. Il n'y a pas très longtemps, Alex Bardo avait fait un décryptage sur la fameuse loi Dupont, qui n'est pas vraiment une loi Dupont. Bon, je ne vais pas vous expliquer parce que c'est très compliqué. Moi-même, je n'ai pas tout compris.
Le papier est à retrouver sur le site de l'équipe.
Voilà, absolument. Mais en fait, c'est juste la preuve que c'est un joueur qui réfléchit au-delà de ce que son entraîneur lui demande. Il va chercher forcément les failles un peu qu'il peut exploiter, comment il peut battre ses adversaires dans des trucs que personne avant lui n'avait décelé ou même réfléchi. Donc voilà, c'est la preuve que c'est un joueur en fait qui peut s'adapter, mais physiquement on avait peu de doutes, et il a encore prouvé là que en fait aussi au niveau du cerveau il va aussi un peu plus vite que tout le monde.
Et puis de toute façon, il n'avait pas le choix. Il savait très bien que ces deux tournois étaient primordiaux dans sa préparation olympique. Ensuite, il n'aura plus que Madrid avant les JO. Donc il savait qu'il fallait que ça marche tout de suite, qu'il pige tout de suite comment ça allait fonctionner ce set. Donc il y a mis, j'imagine, beaucoup, beaucoup d'efforts et d'attention pour que ça marche tout de suite.
Voilà pour le jeu. Pour le reste, jouer avec Antoine Dupont, c'est aussi mettre un gros coup de projecteur sur le rugby à 7. Comment ça se matérialise, Jérôme ? Il y a une présence médiatique plus forte que d'habitude ?
Écoutez, en tribune de presse, à Vancouver, il y avait 5 médias français pour un total de 7 journalistes, je pense. 5 médias français nationaux sur un tournoi de 7, à mon avis, c'était jamais arrivé. Donc oui, il y a eu un gros effet de loupe sur l'arrivée d'Antoine Dupont à 7. Je me suis amusé à aller chercher dans les archives de l'équipe, et pour cette fameuse victoire au tournoi de Paris en 2005, on avait fait un entrefilet, quoi, 1500 caractères, et rien avant, rien après. Ce qui a changé, c'est que depuis, le 7 est devenu olympique, qui plus est Paris cette année, et puis l'effet Antoine Dupont, donc tout ça conjugué fait qu'il y a eu, une grosse, grosse attention de la part des médias. Ouais, on était encore 5, même 6 à Los Angeles, avec quelques-uns qui étaient rentrés en France et d'autres médias qui étaient arrivés. Donc, ouais, effectivement, il y a eu un gros buzz autour d'Antoine Dupont.
Et comment le vivent les autres joueurs ou les sélectionneurs, le sélectionneur qui a une attention particulière pour lui ?
Les autres joueurs, forcément, ce n'était pas évident pour eux. Ils évoluent depuis des années dans l'anonymat. Là, Antoine Dupont arrive, les médias débarquent, et les médias débarquent pour leur parler d'Antoine Dupont. Donc, au bout de la 15e question, quand on vient vous voir et qu'on vous demande « Alors, ça fait quoi de jouer avec Antoine Dupont ?» Forcément, ça commence à agacer un petit peu, mais ça s'est franchement pas vu. Ils ont tous été très ouverts avec nous. Et je pense que c'est dû au travail des sélectionneurs qui avaient aussi pris ça en compte dans leur préparation. Ils en ont parlé avant de ce qui pouvait se passer. Et ils ont prévu de débriefer aussi après pour voir comment chacun a vécu cette situation-là, ce coup de projecteur. D'être dans la lumière, mais dans l'ombre d'Antoine Dupont, c'est pas forcément facile. Mais comme le disait Jérôme Darré, c'est aussi un super entraînement parce que c'est ce qui va se passer juste avant les JO. On va prendre ça multiplié par 10 dans la figure. Donc voilà, ils se sont entraînés à tout ça. Ils savent que ça fait partie du travail à faire avec son groupe.
Alors, on peut se poser un peu cette question de est-ce que c'est forcément une bonne chose pour le rugby à 7 qu'il y ait cette lumière médiatique par le biais d'Antoine Dupont ? Est-ce qu'on se trompe pas un peu de cible ? Quand on pose un peu cette question aux différents acteurs, qu'ils soient anciens ou actuels, ils voient plutôt quand même le positif. Ils voient la lumière mise sur cette discipline qui n'est pas très connue, qui est spectaculaire, qui va forcément attirer aussi un nouveau public parce que c'est des formats plus courts, qui peut aussi paraître plus simple d'accès parce qu'on progresse plus rapidement au rugby à 7 qu'au rugby à 15. Donc il y a quand même beaucoup plus de positif qui ressort de ça. Après, l'effet Dupont, il est indéniable aussi. Donc en fait, on ne peut pas ne pas passer à côté. C'est quelque chose de fait. Il apporte de la lumière sur cette discipline. La question qui peut vraiment se poser aussi, c'est après les Jeux, quand justement tout cet engouement médiatique sera retombé, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que le rugby à 7 va retomber dans l'ombre ? Est-ce que des choses vont être mises en place pour continuer à développer le jeu ? Ou est-ce qu'on se dit, bah voilà, on a fait notre rendez-vous Paris 2024, maintenant on peut passer à autre chose ? C'est ça, je pense, la plus grande crainte, plus que de parler d'Antoine Dupont et pas trop des autres, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe après Paris 2024.
Et ça, les filles, elles l'ont déjà un petit peu vécu, médaille d'argent à Tokyo, des sollicitations, j'en ai parlé avec elles, sur ces deux tournois, des sollicitations énormes pendant les deux mois qui ont suivi cette médaille, et puis plus rien, elles sont retombées dans l'anonymat, comme malheureusement beaucoup de sport olympique. Donc là, c'est à Paris, donc ça va être encore plus énorme, et puis ce qui va beaucoup compter, c'est les résultats. S'il y a médaille qui plus est d'or, on peut espérer que le 7 poursuive sa croissance, y compris médiatiquement.
Est-ce qu'il y a déjà eu autant d'effervescence autour d'un joueur ou d'une joueuse sur le circuit à 7?
En tout cas, en équipe de France, c'est sûr que non. Pour les équipes étrangères, il y a peut-être eu l'effet Sonny Bill Williams, qui était un joueur qui jouait pour les All Blacks, donc à 15, qui a aussi joué à 13 et qui s'était mis au 7, justement, notamment pour l'aventure des Jeux Olympiques de Rio, donc ses premières Olympiades à 7. Mais Sonny Bill Williams n'avait pas eu le même impact qu'a déjà Antoine Dupont sur le jeu et sur son équipe. Il y a plusieurs exemples comme ça de joueurs un peu de 15istes un peu connus. Il y a Quade Cooper aussi, l'Australien. En équipe de France, il y a eu quelques joueurs comme Virimi Vakatawa, Jean-Pascal Barak plus récemment. Je pense que l'exemple qui se rapproche peut-être le plus d'Antoine Dupont, c'est Julien Candelon, qui était ailier notamment équipe de France à 15 et aussi à Perpignan notamment, où il a passé une longue période de sa carrière. Et qui, quand il était arrivé à 7, s'était assez rapidement imposé à un poste assez stratégique, en plus parce qu'il était dans une espèce de poste d'animateur, donc qui touchait énormément de ballons. C'est peut-être l'exemple du 15-10 qui s'est le mieux adapté au 7 en équipe de France, et c'est peut-être du coup ce qui ressemble le plus à Dupont aujourd'hui.
Du côté de l'Australie, il y a Michael Hooper qui est un Wallaby avec 125 sélections et qui est en train de préparer son arrivée à 7. Tout le monde n'y arrive visiblement pas aussi bien qu'Antoine Dupont parce qu'il s'est tellement entraîné qu'a priori il s'est blessé. Mmh. En tout cas, il devait commencer son aventure avec l'Australie lors de cette tournée nord-américaine. Finalement, ça n'a pas eu lieu, il est resté sur le banc. Mais Jérôme Darré disait vivement qu'il arrive parce que ça prendra un petit peu de la lumière et on ne parlera plus que d'Antoine Dupont mais aussi de lui. Donc on espère qu'il commencera bientôt.
Et puis évidemment, Antoine Dupont, donc on l'a dit, n'est pas le seul joueur de cette équipe de France. Il est souvent remplaçant et il a d'ailleurs peu joué pendant la finale contre la Grande-Bretagne.
Ouais.
Quels sont les joueurs qui se sont particulièrement illustrés à Los Angeles ?
C'est difficile de sortir des individualités parce que Jérôme Darré, comme le disait tout à l'heure Adrien, travaille vraiment sur cette notion de collectif. Mais allez, on y va. Stéphane Parez et Do Martin, meilleurs joueurs de la finale. Dans l'équipe type du deuxième tournoi, il y a trois Français. Antoine Dupont, qui était déjà dans cette équipe type du tournoi de Vancouver. Paulin Riva, le capitaine. Et puis Andy Timo. Donc voilà, s'il faut sortir des individualités. Il y a aussi Théo Forner qui a fait un gros tournoi à Los Angeles. Ryan Rebadge. Enfin vraiment, il y a des individualités, mais c'est un gros groupe.
Ouais. Et il y a un joueur aussi qui fait beaucoup de bien à cette équipe de France depuis quelques saisons, c'est Jordan Sefo. Qui est un peu un phénomène physique aussi. Il n'est pas loin des 2 mètres, je pense. Il fait une centaine de kilos et il va à 40 km/h. Donc, c'est en fait, le rugby à 7, c'est aussi un sport où il y a beaucoup de phénomènes de ce genre-là. Ça ressemble un peu, toute proportion gardée, au rugby à 13, où on a l'impression qu'il n'y a que des centres et des troisièmes lignes qui jouent. Donc, ça a forcément cet aspect spectaculaire. Et du coup, à chaque fois qu'un joueur fait une action individuelle, on a l'impression que c'est le joueur de cette équipe. Mais en fait, ils sont quasiment tous capables de le faire.
C'était ma première à 7, ma première expérience de ce sport. Et c'est ce qui m'a le plus impressionné quand j'ai vu ce groupe France pour la première fois. C'est ces athlètes, quoi. C'est des corps, hein, des physiques incroyables. C'est vraiment des athlètes qui se préparent pour ça. Et c'est pas du demi-sport, quoi. C'est vraiment, ils sont taillés. C'est impressionnant à voir.
Donc après cette victoire à Los Angeles, c'est quoi la suite du programme pour l'équipe de France et pour Antoine Dupont ?
Alors pour l'équipe de France, il va y avoir les tournois à Hong Kong début avril, puis un autre à Singapour début mai. Puis il y aura ce tournoi final à Madrid, du coup le 31 mai au 2 juin. Et c'est à ce tournoi-là, du coup, qui réunit en gros les 8 meilleures équipes du classement général. Pour un tournoi final, pour savoir qui est le champion à la fin de la saison.
Et pour l'instant, les Français sont quatrième.
Exactement. Donc pour l'instant, les Français sont théoriquement qualifiés, mais il faut finir dans les 8 premiers. Et c'est à ce tournoi-là, où Antoine Dupont reviendrait avec les Bleus.
C'est ça, il est prévu qu'il revienne pour Madrid, mais les deux tournois qui précéderont seront importants pour l'équipe de France, puisqu'il faudra vivre sans Antoine Dupont et montrer qu'on est quand même capable de gagner sans lui. et ce sera pas simple forcément puisque les tirages au sort pour Hong Kong a déjà été effectué dans la foulée de la finale à Los Angeles et on affrontera les Fidji, l'Australie et le Canada en poule, donc c'est du costaud. Imaginez une équipe de France sortie en poule après avoir gagné le précédent tournoi, ce serait pas du tout inédit hein, parce qu'à 7 on peut être très bon un tournoi et très mauvais à l'autre et même très bon sur un match et se faire un petit peu démonter au suivant. Il n'y a pas de logique dans ce sport, c'est tellement dur physiquement que dès qu'on n'y est pas, on saute et l'adversaire en profite.
C'est pour ça que c'est un sport, quand on le regarde avec nos yeux de supporters ou de spectateurs de 15, voilà, et ben en fait, on a l'impression que c'est un peu n'importe quoi, parce que ça va dans tous les sens, parce qu'il n'y a pas vraiment de temps fort dans un match, il n'y a pas une équipe qui domine pendant plusieurs minutes, ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare, c'est souvent des fulgurances d'un coup. Et donc en fait, c'est pour ça qu'il faut, je pense, quand on regarde un match de rugby à 7, accepter que l'erreur se paye cash et que du coup prendre un essai n'est pas la raison que l'équipe soit mauvaise particulièrement. C'est juste que en fait c'est ce sport-là qui ne pardonne rien.
Et à moins de 5 mois des JO, qu'est-ce qu'on peut envisager pour l'équipe de France masculine à 7? Et donc on rappelle qu'ils n'étaient pas au dernier jeu à Tokyo.
Bah, une médaille, maintenant qu'ils ont gagné un tournoi et maintenant qu'il y a cet effet Dupont, ils vont être attendus. Donc de toute façon c'est leur objectif. L'objectif c'est une médaille, c'est même la médaille d'or, ils s'en cachent pas, donc ils ont prouvé qu'ils savaient le faire une fois, maintenant il faudra le faire plusieurs fois et notamment à Paris.
En plus il y aura peut-être une pression particulière, alors évidemment le fait que ça soit à domicile, ça, quoi qu'il arrive il y aura une pression, mais il y a quelque chose de particulier avec le tournoi masculin à Paris, c'est que en fait les matchs de poule et les quarts de finale auront lieu avant la cérémonie d'ouverture.
Oui, ça commence très tôt.
C'est ça, ça commence. La cérémonie d'ouverture, c'est le vendredi 26. Et le 24, c'est les premiers matchs. Le 25, les quarts de finale. Et le 27, le lendemain de la cérémonie, les demi et la finale. Donc on peut se retrouver dans une dimension où l'équipe de France d'Antoine Dupont est éliminée avant la cérémonie d'ouverture. Donc il y a peut-être aussi cette chape de plomb de se dire on peut passer par une humiliation un petit peu violente qui peut aussi ajouter un peu de piment.
En tout cas, ils auront le soutien populaire, puisque le Stade de France sera en configuration 60 000 places. Et pour toutes les sessions du tournoi olympique de rugby à 7, 95% des places ont déjà été achetées. Ce sera déjà beaucoup mieux qu'à Los Angeles, notamment, où le stade sonnait vraiment creux. Donc il y aura un vrai soutien populaire pour ces Bleus-là.
Et un mot sur les filles aussi, elles n'étaient pas en réussite à Los Angeles, mais c'est elles aussi, elles ont une véritable chance de médaille au jeu.
Oui, on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de logique dans ce sport, et elles font finale à Vancouver après un super tournoi, et puis elles se font sortir dès l'écart à Los Angeles. Il se passe des choses très fortes dans ce groupe de filles. Elles sont sorties du terrain après la finale à Vancouver en pleurs parce que déception de perdre encore une finale. Elles ont perdu les JO en finale face à ces mêmes néo-zélandaises. Elles en ont un petit peu marre de perdre en finale. Et puis il y a eu aussi des pleurs à la fin de leur dernier match qui était un match de classement pour la 5e place. Elles ont pilonné les Sud-Africaines et malgré ça, elles sont sorties en pleurs parce qu'elles avaient la sensation d'être encore passées à côté de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se construire dans ce groupe de filles. Elles sont super... super touchante à voir. Il se dégage quelque chose de très fort du groupe. Maintenant, il faut que ça se matérialise par les résultats. Mais elles ne courront après qu'une chose au JO de Paris, ce sera l'or.
C'est un peu le paradoxe de cette équipe de France féminine. C'est que c'est sans doute une plus grande chance de médaille sur le long terme, en tout cas, que les garçons. Mais c'est surtout une équipe qui n'a jamais remporté le moindre tournoi dans l'histoire et qui est toujours pas loin. Elles ont fait un nombre incalculable de finales, mais elles n'arrivent jamais à gagner deux matchs importants d'affilée sur les grands tournois. Et c'est tout le travail du coup de David Courtex et son staff d'essayer de casser ce plafond de verre.
Elles ont suivi la finale des garçons à Los Angeles depuis les tribunes, ce qui se fait très régulièrement à 7. Hein. Les garçons, pendant les quelques heures à tuer entre deux matchs, vont en tribune pour les soutenir et inversement. Donc elles ont vu cette finale et moi j'étais dans la coursive qui mène au vestiaire quand elles sont rentrées. Elles étaient évidemment contentes pour eux, mais on sentait que ça les avait quand même touchées qu'elles qui courent après cette victoire depuis si longtemps et que les garçons arrivent le faire là, ça peut les booster à long terme, mais là ça les a un petit peu touchées. Ouais.
On aura l'occasion de reparler du rugby à 7 féminin plus spécifiquement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Merci messieurs d'avoir été dans Crunch. Cette semaine, j'étais avec Adrien Corré, Jérôme Bourré et Mathis Rouanet à l'enregistrement. La semaine prochaine, on rebascule sur l'équipe de France à 15 cette fois. D'ici là, vous pouvez retrouver tous les articles des journalistes rugby de l'équipe dans le journal et sur le site. Il y aura aussi un débrief du match contre le Pays de Galles dans le salon tactique. C'est en vidéo sur l'équipe.fr. À la semaine prochaine. Salut.